Balzac. Le médecin de campagne. Chapitre 2. À travers champs. L'amitié que tout cavalier porte à sa monture attira dès le matin Genesta à l'écurie, et il fut satisfait du pansement fait à son cheval par Nicole. « Déjà levé, capitaine Bluteau ?» s'écria Benassi qui vint à la rencontre de son hôte. « Vous êtes vraiment militaire, vous entendez la diane partout, même au village. »« Cela va-t-il bien ?» lui répondit Genesta en lui tendant la main par un mouvement d'ami. « Je ne vais jamais positivement bien, » répondit Benassi d'un ton moitié triste et moitié gai. « Monsieur a-t-il bien dormi ?» dit Jacotte à Genesta. « Parbleu, la belle ! Vous aviez fait le lit comme pour une mariée !» Jacotte suivit en souriant son maître et le militaire. Après les avoir vus attablés, « Il est bon enfant tout de même, monsieur l'officier, » dit-elle à Nicole. « Je crois bien, il m'a déjà donné 40 sous. »« Nous commencerons par aller visiter deux morts, » dit Benassi à son hôte en sortant de la salle à manger. Quoique les médecins veuillent rarement se trouver face à face avec leurs prétendues victimes, je vous conduirai dans deux maisons où vous pourrez faire une observation assez curieuse sur la nature humaine. Vous y verrez deux tableaux qui vous prouveront combien les montagnards diffèrent des habitants de la plaine dans l'expression de leurs sentiments. La partie de notre canton, située sur les pics, conserve des coutumes empreintes d'une couleur antique et qui rappellent vaguement les scènes de la Bible. Il existe sur la chaîne de nos montagnes une ligne tracée par la nature, à partir de laquelle tout change d'aspect. En haut, la force. En bas, l'adresse. En haut, des sentiments larges. En bas, une perpétuelle entente des intérêts de la vie matérielle. À l'exception du Val d'Ajou, dont la côte septentrionale est peuplée d'imbéciles, et la méridionale de gens intelligents, deux populations qui, séparées seulement par un ruisseau, sont dissemblables en tout point, stature, démarche, physionomie, mœurs, occupation, je n'ai vu nulle part cette différence plus sensible qu'elle ne l'est ici. Ce fait obligerait les administrateurs d'un pays à de grandes études locales relativement à l'application des lois aux masses. Mais les chevaux sont prêts. Allons. Les deux cavaliers arrivèrent en peu de temps à une habitation située dans la partie du bourg qui regardait les montagnes de la Grande Chartreuse. À la porte de cette maison, dont la tenue était assez propre, ils aperçurent un cercueil couvert d'un drap noir, posé sur deux chaises au milieu de quatre cierges, puis sur une escabelle, un plateau de cuivre où trempait un rameau de buis dans de l'eau bénite. Chaque passant entrait dans la cour, venait s'agenouiller devant le corps, disait un pater, et jetait quelques gouttes d'eau bénite sur la bière. Au-dessus du drap noir s'élevait les touffes vertes d'un jasmin planté le long de la porte, et, en haut de l'imposte, courait le sarment tortueux d'une vigne déjà feuillée. Une jeune fille achevait de balayer le devant de la maison pour obéir à ce vague besoin de parure que commandent les cérémonies et même la plus triste de toutes. Le fils aîné du mort, jeune paysan de 22 ans, était debout, immobile, appuyé sur le montant de la porte. Il avait dans les yeux des pleurs qui roulaient sans tomber, ou que peut-être il allait par moments essuyer à l'écart. À l'instant où Benassi et Genesta entraient dans la cour après avoir attaché leurs chevaux à l'un des peupliers placés le long d'un petit mur à hauteur d'appui, par-dessus lequel ils avaient examiné cette scène, la veuve sortait de son étable, accompagnée d'une femme qui portait un pot plein de lait. Ayez du courage, ma pauvre Pelletier, disait celle-ci. Ah, ma chère femme, quand on est resté 25 ans avec un homme, il est bien dur de se quitter. Et ses yeux se mouillèrent de larmes. Payez-vous les 2 sous? Ajouta-t-elle après une pause en tendant la main à sa voisine. Ah tiens, j'oubliais, fit l'autre femme en lui tendant sa pièce. Allons, consolez-vous, ma voisine. Ah, voilà monsieur Benassi. Eh bien, ma pauvre mère, allez-vous mieux? Demanda le médecin. Dame, mon cher monsieur, dit-elle en pleurant, faut bien aller tout de même. Je me dis que mon homme ne souffrira plus. Il a tant souffert. Mais entrez donc, messieurs. Jacques, donne donc des chaises à ces messieurs. Allons, remue-toi. Pardi, va, tu ne ranimeras pas ton pauvre père quand tu resterais là pendant 100 ans. Et maintenant, il te faut travailler pour deux. Non, non, bonne femme, laissez votre fils tranquille. Nous ne nous assiérons pas. Vous avez là un garçon qui aura soin de vous et bien capable de remplacer son père. Va donc t'habiller, Jacques, cria la veuve. Ils vont venir le quérir. Allons, adieu la mère, dit Benassi. Messieurs, je suis votre servante. Vous le voyez, reprit le médecin, ici, la mort est prise comme un accident prévu qui n'arrête pas le cours de la vie des familles, et le deuil n'y sera même point porté. Dans les villages, personne ne veut faire cette dépense, soit misère, soit économie. Dans les campagnes, le deuil n'existe donc pas. Or, monsieur, le deuil n'est ni un usage ni une loi, c'est bien mieux, c'est une institution qui tient à toutes les lois dont l'observation dépend d'un même principe, la morale. Eh bien, malgré nos efforts, ni moi ni monsieur Janvier, nous n'avons pu réussir à faire comprendre à nos paysans de quelle importance sont les démonstrations publiques pour le maintien de l'ordre social. Ces braves gens, émancipés d'hier, ne sont pas aptes encore à saisir les rapports nouveaux qui doivent les attacher à ces pensées générales. Ils n'en sont maintenant qu'aux idées qui engendrent l'ordre et le bien-être physique. Plus tard, si quelqu'un continue mon œuvre, ils arriveront aux principes qui servent à conserver les droits publics. Il ne suffit pas en effet d'être honnête homme, il faut le paraître. La société ne vit pas seulement par des idées morales. Pour subsister, elle a besoin d'actions en harmonie avec ses idées. Dans la plupart des communes rurales, sur une centaine de familles que la mort a privées de leur chef, quelques individus seulement, doués d'une sensibilité vive, garderont de cette mort un long souvenir, mais tous les autres l'auront complètement oublié dans l'année. Cet oubli n'est-il pas une grande plaie? Une religion est le cœur d'un peuple. Elle exprime ses sentiments et les agrandit en leur donnant une fin. Mais sans un Dieu visiblement honoré, la religion n'existe pas. Et partant, les lois humaines n'ont aucune vigueur. Si la conscience appartient à Dieu seul, le corps tombe sous la loi sociale. Or, n'est-ce pas un commencement d'athéisme que d'effacer ainsi les signes d'une douleur religieuse, de ne pas indiquer fortement aux enfants qui ne réfléchissent pas encore, et à tous les enfants qui ont besoin d'exemple, la nécessité d'obéir aux lois par une résignation patente aux ordres de la Providence qui frappe et console, qui donne et ôte les biens de ce monde? J'avoue qu'après avoir passé par des jours d'incrédulité moqueuse, j'ai compris ici la valeur des cérémonies religieuses, celle des solennités de famille, l'importance des usages et des fêtes du foyer domestique. La base des sociétés humaines sera toujours la famille. Là commence l'action du pouvoir et de la loi. Là, du moins, doit s'apprendre l'obéissance. Vu dans toutes leurs conséquences, l'esprit de famille et le pouvoir paternel sont deux principes encore trop peu développés dans notre nouveau système législatif. La famille, la commune, le département, tout notre pays est pourtant là. Les lois devraient donc être basées sur ces trois grandes divisions. À mon avis, le mariage des époux, la naissance des enfants, la mort des pères ne sauraient être environnés de trop d'appareils. Ce qui a fait la force du catholicisme, ce qui l'a si profondément enraciné dans les mœurs, c'est précisément l'éclat avec lequel il apparaît dans les circonstances graves de la vie pour les environner de pompes si naïvement touchantes, si grandes. Lorsque le prêtre se met à la hauteur de sa mission et qu'il sait accorder son office avec la sublimité de la morale chrétienne. Autrefois, je considérais la religion catholique comme un amas de préjugés et de superstitions habilement exploitées, desquelles une civilisation intelligente devait faire justice. Ici, j'en ai reconnu la nécessité politique et l'utilité morale. Ici, j'en ai compris la puissance par la valeur même du mot qui l'exprime. Religion veut dire lien. Et certes, le culte, ou autrement dit, la religion exprimée, constitue la seule force qui puisse relier les espèces sociales et leur donner une forme durable. Enfin, ici, j'ai respiré le baume que la religion jette sur les plaies de la vie. Sans la discuter, j'ai senti qu'elle s'accorde admirablement avec les mœurs passionnées des nations méridionales. Prenez le chemin qui monte, dit le médecin en s'interrompant. Il faut que nous gagnions le plateau. De là, nous dominerons les deux vallées et vous y jouirez d'un beau spectacle. Élevés à 3 000 pieds environ au-dessus de la Méditerranée, nous verrons la Savoie et le Dauphiné, les montagnes du Lyonnais et le Rhône. Nous serons sur une autre commune, une commune montagnarde, où vous trouverez dans une ferme de Monsieur Gravier le spectacle dont je vous ai parlé, cette pompe naturelle qui réalise mes idées sur les grands événements de la vie. Dans cette commune, le deuil se porte religieusement. Les pauvres quêtent pour pouvoir s'acheter leurs vêtements noirs. Dans cette circonstance, personne ne leur refuse de secours. Il se passe peu de jours sans qu'une veuve parle de sa perte, toujours en pleurant. Et 10 ans après son malheur, comme le lendemain, ses sentiments sont également profonds. Là, les mœurs sont patriarcales. L'autorité du père est illimitée. Sa parole est souveraine. Il mange seul, assis au haut bout de la table. Sa femme et ses enfants le servent. Ceux qui l'entourent ne lui parlent point sans employer certaines formules respectueuses. Devant lui, chacun se tient debout et découvert. Élevés ainsi, les hommes ont l'instinct de leur grandeur. Ces usages constituent, à mon sens, une noble éducation. Aussi, dans cette commune, sont-ils généralement justes, économes et laborieux. Chaque père de famille a coutume de partager également ses biens entre ses enfants quand l'âge lui a interdit le travail. Ses enfants le nourrissent. Dans le dernier siècle, un vieillard de 90 ans, après avoir fait ses partages entre ses 4 enfants, venait vivre 3 mois de l'année chez chacun d'eux. Quand il quitta l'aîné pour aller chez le cadet, un de ses amis lui demanda: Eh bien, es-tu content? Ma foi, oui, lui dit le vieillard. Ils m'ont traité comme leur enfant. Ce mot, monsieur, apparut si remarquable à un officier nommé Vauvenargues, célèbre moraliste, alors en garnison à Grenoble, qu'il en parla dans plusieurs salons de Paris où cette belle parole fut recueillie par un écrivain nommé Champfort. Eh bien, il se dit souvent chez nous des mots encore plus saillants que ne l'est celui-ci, mais il leur manque des historiens dignes de les entendre. J'ai vu des frères moraves, des Lollards en Bohême et en Hongrie, dit Genestin. C'est des chrétiens qui ressemblent assez à vos montagnards. Ces braves gens souffrent les maux de la guerre, avec une patience d'ange. Monsieur, répondit le médecin, les mœurs simples doivent être à peu près semblables dans tous les pays. Le vrai n'a qu'une forme. À la vérité, la vie de la campagne tue beaucoup d'idées, mais elle affaiblit les vices et développe les vertus. En effet, moins il se trouve d'hommes agglomérés sur un point, moins il s'y rencontre de crimes, de délits, de mauvais sentiments. La pureté de l'air entre pour beaucoup dans l'innocence des mœurs. Les deux cavaliers qui montaient au pas un chemin pierreux arrivèrent alors en haut du plateau dont avait parlé Benassi. Ce territoire tourne autour d'un pic très élevé, mais complètement nu, qui le domine, et où il n'existe aucun principe de végétation. La cime en est grise, fendue de toutes parts, abrupte, inabordable. Le fertile terroir, contenu par des rochers, s'étend au-dessous de ce pic, et le borde inégalement dans une largeur d'une centaine d'arpents environ. Au midi, l'œil embrasse, par une immense coupure, la Maurienne française, le Dauphiné, les rochers de la Savoie et les lointaines montagnes du Lyonnais. Au moment où Genesta contemplait ce point de vue, alors largement éclairé par le soleil du printemps, des cris lamentables se firent entendre. Venez, lui dit Benassi, le chant est commencé. Le chant est le nom que l'on donne à cette partie des cérémonies funèbres. Le militaire aperçut alors sur le revers occidental du pic les bâtiments d'une ferme considérable qui forment un carré parfait. Le portail cintré, tout en granit, a un caractère de grandeur que rehausse encore la vétusté de cette construction, l'antiquité des arbres qui l'accompagnent et les plantes qui croissent sur ses arêtes. Le corps de logis est au fond de la cour, de chaque côté de laquelle se trouvent les granges, les bergeries, les écuries, les étables, les remises, et au milieu, la grande mare où pourrissent les fumiers. Cette cour, dont l'aspect est ordinairement si animé dans les fermes riches et populeuses, était en ce moment silencieuse et morne. La porte de la basse-cour étant close, les animaux restaient dans leur enceinte, d'où leurs cris s'entendaient à peine. Les étables, les écuries, tout était soigneusement fermé. Le chemin qui menait à l'habitation avait été nettoyé. Cet ordre parfait, là où régnait habituellement le désordre, ce manque de mouvement et ce silence dans un endroit si bruyant, le calme de la montagne, l'ombre projetée par la cime du pic, tout contribuait à frapper l'âme. Quelque habitué que fût Genesta aux impressions fortes, il ne put s'empêcher de tressaillir en voyant une douzaine d'hommes et de femmes en pleurs, rangés en dehors de la porte de la grande salle, et qui tous s'écrièrent: Le maître est mort! Avec une effrayante unanimité d'intonation et à deux reprises différentes, pendant le temps qu'il mit à venir du portail au logement du fermier. Ce cri fini, des gémissements partirent de l'intérieur, et la voix d'une femme se fit entendre par les croisées. Je n'ose pas aller me mêler à cette douleur, dit Genesta à Benassi. Je viens toujours, répondit le médecin, visiter les familles affligées par la mort, soit pour voir s'il n'est pas arrivé quelque accident causé par la douleur, soit pour vérifier le décès. Vous pouvez m'accompagner sans scrupule. D'ailleurs, la scène est si imposante, et nous allons trouver tant de monde que vous ne serez pas remarqué. En suivant le médecin, Genesta vit en effet la première pièce pleine de parents. Tous deux traversèrent cette assemblée et se placèrent près de la porte d'une chambre à coucher attenant à la grande salle qui servait de cuisine et de lieu de réunion à toute la famille. Il faudrait dire la colonie, car la longueur de la table indiquait le séjour habituel d'une quarantaine de personnes. L'arrivée de Benassi interrompit les discours d'une femme de grande taille, vêtue simplement, dont les cheveux étaient épars, et qui gardait dans sa main la main du mort par un geste éloquent. Celui-ci, vêtu de ses meilleurs habillements, était étendu, roide, sur son lit, dont les rideaux avaient été relevés. Cette figure calme, qui respirait le ciel, et surtout les cheveux blancs, produisaient un effet théâtral. De chaque côté du lit se tenaient les enfants et les plus proches parents des époux, chaque ligne gardant son côté, les parents de la femme à gauche, ceux du défunt à droite. Hommes et femmes étaient agenouillés et priaient, la plupart pleuraient. Des cierges environnaient le lit. Le curé de la paroisse et son clergé avaient leur place au milieu de la chambre autour de la bière ouverte. C'était un tragique spectacle que de voir le chef de cette famille en présence d'un cercueil prêt à l'engloutir pour toujours. Ah, mon cher seigneur, dit la veuve en montrant le médecin, si la science du meilleur des hommes n'a pu te sauver, il était donc écrit là-haut que tu me précéderais dans la fosse. Oui, la voilà froide, cette main qui me précède avec tant d'amitié. J'ai perdu pour toujours ma chère compagnie, et notre maison a perdu son précieux chef, car tu étais vraiment notre guide. Hélas! Tous ceux qui te pleurent avec moi ont bien connu la lumière de ton cœur et toute la valeur de ta personne, mais moi seul savais combien tu étais doux et patient. Ah, mon époux, mon homme! Faut donc te dire adieu, à toi notre soutien, à toi mon bon maître. Et nous, tes enfants, car tu chérissais chacun de nous également, nous avons tous perdu notre père. La veuve se jeta sur le corps, l'étreignit, le couvrit de larmes, l'échauffa de baisers, et pendant cette pause, les serviteurs crièrent « Le maître est mort !»« Oui, reprit la veuve, il est mort, ce cher homme bien-aimé qui nous donnait notre pain, qui plantait, récoltait pour nous, et veillait à notre bonheur en nous conduisant dans la vie. » Avec un commandement plein de douceur, je puis le dire maintenant à sa louange, il ne m'a jamais donné le plus léger chagrin. Il était bon, fort, patient, et quand nous le torturions pour lui rendre sa précieuse santé, « Laissez-moi, mes enfants, tout est inutile, » nous disait ce cher agneau de la même voix dont il nous disait quelques jours auparavant, « Tout va bien, mes amis. » Oui, grand Dieu, quelques jours ont suffi pour nous ôter la joie de cette maison et obscurcir notre vie en fermant les yeux au meilleur des hommes, au plus probe, au plus vénéré, à un homme qui n'avait pas son pareil pour mener la charrue, qui courait sans peur nuit et jour par nos montagnes et qui, au retour, souriait toujours à sa femme et à ses enfants. Ah, il était bien notre amour à tous. Quand il s'absentait, le foyer devenait triste, nous ne mangions pas de bon appétit. Et maintenant, que sera-ce donc lorsque notre ange gardien sera mis sous terre et que nous ne le verrons plus jamais? Jamais, mes amis, jamais, mes bons parents, jamais, mes enfants. Oui, mes enfants ont perdu leur bon père, nos parents ont perdu leurs bons parents, mes amis ont perdu un bon ami, et moi j'ai perdu tout. Comme la maison a perdu son maître. » Elle prit la main du mort, s'agenouilla pour y mieux coller son visage, et la baisa. Les serviteurs crièrent trois fois: Le maître est mort! En ce moment, le fils aîné vint près de sa mère et lui dit: Ma mère, voilà ceux de Saint-Laurent qui viennent. Il leur faudra du vin. Mon fils, répondit-elle à voix basse en quittant le ton solennel et lamentable dans lequel elle exprimait ses sentiments. Prenez les clés, vous êtes le maître céan. Voyez à ce qu'ils puissent trouver ici l'accueil que leur faisait votre père, et que pour eux rien n'y paraisse changé. Que je te voie donc encore une fois à mon aise, mon digne homme, reprit-elle. Mais hélas, tu ne me sens plus, je ne puis plus te réchauffer. Ah, tout ce que je voudrais, ce serait de te consoler encore en te faisant savoir que tant que je vivrai, tu demeureras dans le cœur que tu as réjoui, que je serai heureuse par le souvenir de mon bonheur, et que ta chère pensée subsistera dans cette chambre. Oui, elle sera toujours pleine de toi tant que Dieu m'y laissera. Entends-moi, mon cher homme, je jure de maintenir ta couche telle que la voici. Je n'y suis jamais entré sans toi, qu'elle reste donc vide et froide. En te perdant, j'aurais réellement perdu tout ce qui fait la femme. Maître, époux, père, ami, compagnon, homme, enfin tout. Le maître est mort! crièrent les serviteurs. Pendant le cri qui devint général, la veuve prit des ciseaux pendus à sa ceinture. Elle coupa ses cheveux qu'elle mit dans la main de son mari. Il se fit un grand silence. Cet acte signifie qu'elle ne se remariera pas, dit Benassi. Beaucoup de parents attendaient sa résolution. Prends, mon cher seigneur, dit-elle avec une effusion de voix et de cœur qui émut tout le monde. Garde dans la tombe la foi que je t'ai jurée. Nous serons par ainsi toujours unis, et je resterai parmi tes enfants par amour pour cette lignée qui te rajeunissait l'âme. Puisses-tu m'entendre, mon homme, mon seul trésor, et apprendre que tu me feras encore vivre, toi mort, pour obéir à tes volontés sacrées et pour honorer ta mémoire. Benassi pressa la main de Genesta pour l'inviter à le suivre, et ils sortirent. La première salle était pleine de gens venus d'une autre commune, également située dans les montagnes. Tous demeuraient silencieux et recueillis, comme si la douleur et le deuil qui planaient sur cette maison les eussent déjà saisis. Lorsque Benassi et le commandant passèrent le seuil, ils entendirent ces mots dits par un des survenants au fils du défunt. Quand donc est-il mort? Ah! s'écria l'aîné, qui était un homme de 25 ans. Je ne l'ai pas vu mourir. Il m'avait appelé, et je ne me trouvais pas là. Les sanglots l'interrompirent, mais il continua. La veille, il m'avait dit: Garçon, tu iras au bourg payer nos impositions. Les cérémonies de mon enterrement empêcheraient d'y songer, et nous serions en retard, ce qui n'est jamais arrivé. Il paraissait mieux. Moi, j'y suis allé. Pendant mon absence, il est mort, sans que j'aie reçu ses derniers embrassements. À sa dernière heure, il ne m'a pas vu près de lui, comme j'y étais toujours. Le maître est mort! criait-on. Hélas, il est mort, et je n'ai reçu ni ses derniers regards, ni son dernier soupir. Et comment penser aux impositions? Ne valait-il pas mieux perdre tout notre argent que de quitter le logis? Notre fortune pouvait-elle payer son dernier adieu? Non. Mon Dieu, si ton père est malade, ne le quitte pas, Jean. Tu te donnerais des remords pour toute ta vie. Mon ami, lui dit Genesta, J'ai vu mourir des milliers d'hommes sur les champs de bataille, et la mort n'attendait pas que leurs enfants vinssent leur dire adieu. Ainsi, consolez-vous, vous n'êtes pas le seul. Un père, mon cher monsieur, dit-il en fondant en larmes, un père qui était un si bon homme. Cette oraison funèbre, dit Benassi en dirigeant Genesta vers les communs de la ferme, va durer jusqu'au moment où le corps sera mis dans le cercueil, et pendant tout le temps, le discours de cette femme éplorée croîtra en violence et en images. Mais pour parler ainsi devant cette imposante assemblée, il faut qu'une femme en ait acquis le droit par une vie sans tache. Si la veuve avait la moindre faute à se reprocher, elle n'oserait pas dire un seul mot. Autrement, ce serait se condamner elle-même, être à la fois l'accusateur et le juge. Cette coutume qui sert à juger le mort et le vivant n'est-elle pas sublime? Le deuil ne sera pris que 8 jours après en assemblée générale. Pendant cette semaine, la famille restera près des enfants et de la veuve pour les aider à arranger leurs affaires et pour les consoler. Cette assemblée exerce une grande influence sur les esprits. Elle réprime les passions mauvaises par ce respect humain qui saisit les hommes quand ils sont en présence les uns des autres. Enfin, le jour de la prise du deuil, il se fait un repas solennel où tous les parents se disent adieu. Tout cela est grave, et celui qui manquerait au devoir qu'impose la mort d'un chef de famille n'aurait personne à son chant. En ce moment, le médecin, se trouvant près de l'étable, en ouvrit la porte et y fit entrer le commandant pour la lui montrer. Voyez-vous, capitaine, toutes nos étables ont été rebâties sur ce modèle. N'est-ce pas superbe? Genesta ne put s'empêcher d'admirer ce vaste local où les vaches et les bœufs étaient rangés sur 2 lignes, la queue tournée vers les murs latéraux et la tête vers le milieu de l'étable, dans laquelle ils entraient par une ruelle assez large pratiquée entre eux et la muraille. Leurs crèches à jour laissaient voir leurs têtes encornées et leurs yeux brillants. Le maître pouvait ainsi facilement passer son bétail en revue. Le fourrage, placé dans la charpente où l'on avait ménagé une espèce de plancher, tombait dans les râteliers, sans effort ni perte. Entre les 2 lignes de crèche se trouvait un grand espace pavé, propre et aéré par des courants d'air. Pendant l'hiver, dit Benassi en se promenant avec Genesta dans le milieu de l'étable, la veillée et les travaux se font en commun ici. L'on dresse des tables et tout le monde se chauffe ainsi à bon marché. Les bergeries sont également bâties d'après ce système. Vous ne sauriez croire combien les bêtes s'accoutument facilement à l'ordre. Je les ai souvent admirées quand elles rentrent. Chacune d'elles connaît son rang et laisse entrer celle qui doit passer la première. Voyez, il existe assez de place entre la bête et le mur pour qu'on puisse la traire ou la panser. Puis le sol est en pente, de manière à procurer aux eaux un facile écoulement. Cette étable fait juger de tout le reste, dit Genesta. Sans vouloir vous flatter, voilà de beaux résultats. Ils n'ont pas été obtenus sans peine, répondit Benassi. Mais aussi, quels bestiaux!